Chapitre 66. L'agent Rose Pelham se tient devant le 14 Melville Heights. Elle est accompagnée de l'inspecteur Philip Mackin, son supérieur. C'est la première fois qu'il se rend à Melville Heights. Il passait le week-end chez ses parents à Bangor, au Pays de Galles, quand on l'a appelé. Il est revenu à Bristol le plus rapidement possible. En son fort intérieur, Rose est ravie, ce qui ressemblait à un féminicide, le mari couvert du sang de la victime, 20 minutes inexpliquées entre son arrivée au domicile et son appel au secours, sa liaison avec sa voisine, les rumeurs d'une relation sadomasochiste avec sa femme. C'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus complexe. Et Philip Mackin est l'inspecteur le plus chevronné de la préfecture. Avec lui, elle donnera le meilleur d'elle-même. La maison située au 14 Melville Heights est belle, avec ses grandes fenêtres qui s'avancent sur la rue au rez-de-chaussée et au premier étage, et son vitrail au dernier étage, derrière lequel on distingue la cage d'escalier. La maison qui la jouxte est rouge carmin avec une façade plane. Elle n'est pas occupée en ce moment, ses propriétaires passent l'année à San Francisco. La maison suivante est le numéro 16, celle des Fitzwilliam, toujours sous scellé, éclairée par les gyrophares des voitures de police garées devant. Rose s'est déjà rendue au numéro 14 plus tôt dans la matinée pour demander à Joséphine Mullen de la suivre au commissariat, afin de répondre à leurs questions, mais aussi pour jeter un œil à la porte donnant sur leur jardin. Son frère, Jack Mullen, lui avait ouvert, encore à moitié endormi. Un homme charmant, au visage juvénile. Il lui avait offert un cappuccino fait avec sa machine à café flambant neuve, pendant que Joséphine s'habillait. Il l'avait même saupoudré de chocolat.
« Vous savez, ma sœur n'aurait jamais pu faire ça !»
lui avait-il dit dans la cuisine en la regardant le plus sérieusement du monde de ses yeux bleu ciel.
« C'est la fille la plus gentille, douce et adorable du monde, je vous le jure !»
Oh, comme elle aurait voulu pouvoir le croire. Cette fois-ci, quelques heures plus tard, une femme leur ouvre la porte.
« Bonjour. »«
Bonjour, vous êtes Madame Mullen ? Je suis l'agent de police Rose Pelham et voici l'inspecteur Philip Mackin. Pourrions-nous entrer un instant ?»«
Bien sûr, suivez-moi. »
Ses doigts sont agrippés au bord de la porte qu'elle relâche doucement. « Parfait. » Ils essuient leurs pieds et entrent derrière la femme. Directement sur la gauche, l'escalier mène aux étages supérieurs, éclairés par les taches colorées du vitrail qui s'étale sur la rampe pâle. Un ancien porte-manteau en bronze et ivoire est vissé au mur. Rose examine ce qui y est accroché en passant et classe soigneusement ses observations dans sa mémoire. Devant eux se trouve la cuisine, là où elle a bu le cappuccino préparé par M. Mullen ce matin, et à leur gauche, un grand salon.
« Jack, la police est encore là !»
prévient Mme Mullen d'une voix forte. Jack apparaît tout à fait éveillé maintenant, portant un t-shirt gris et un jean noir. Il leur adresse un sourire crispé.
« Ma sœur va bien. L'avocat est arrivé. Vous la laissez rentrer à la maison ?»«
Pas encore, monsieur. Son avocat est arrivé il y a une heure. Nous avons discuté ensemble et les choses s'éclaircissent. Ça ne devrait plus prendre très longtemps. »«
Oh mon Dieu, merci. Elle avait l'air terrifiée quand je l'ai eue au téléphone tout à l'heure. »«
Est-ce qu'on s'installe dans le salon, Jack ?»
demande Madame Mullen.
« Non, restons dans la cuisine, c'est plus sympa. »
« Sympa. » « Ce n'est pas un mot qu'on entend souvent dans une enquête pour meurtre, » se dit Rose. Jack leur propose un café, mais à 7 heures de la journée, Rose préfère un verre d'eau. Jack et Rebecca s'assoient d'un côté de la table, sur un banc. Rose et Philippe de l'autre côté, sur des chaises au dossier recouvert de lin blanc. Rose examine attentivement le visage de Rebecca Mullen. Elle ne ressemble pas à ce qu'elle s'imaginait après avoir rencontré son mari. Lui semble fiable, amical, joyeux. Elle est froide, tendue et triste. Elle porte une robe chemise bleu marine avec une ceinture en tissu placée juste au-dessus de son ventre. Ses cheveux sombres sont coiffés sur le côté et regroupés en une queue de cheval retenue par un élastique marron. Elle porte son alliance et un médaillon autour du cou. Ses mains pâles sont croisées devant elle, mais Rose entend sa ballerine taper nerveusement contre le pied de la table.
« Bien !» commence-t-elle après avoir vérifié dans le regard de son collègue qu'elle pouvait démarrer l'entretien.
« Monsieur Mullen, pourriez-vous répéter à mon collègue ce que vous m'avez dit ce matin à propos de la visite de Madame Fitzwilliam hier midi ?»«
Oui, » répond-il en s'éclairant. « Bien entendu, c'était autour de 14 heures. J'allais partir au travail quand on a sonné à la porte. J'ai ouvert et c'était elle. Elle avait l'air un peu, je ne sais pas, un peu négligée. Pas comme d'habitude. Elle m'a dit qu'elle avait eu la grippe et qu'elle essayait de se forcer à sortir du lit. Elle nous avait apporté un cadeau.
Pourriez-vous montrer ce cadeau à l'inspecteur Makin ?
Oui, il doit être... Oui, voilà.
Il se lève pour attraper un paquet posé sur une étagère près de la porte du jardin, puis le lui tend. C'est une couverture en laine crème avec des motifs jaunes et bleus sur les côtés qui sont censés être des lapins, ce que Rose n'aurait pu deviner si Jack Mullen ne lui avait pas appris ce matin.
Elle nous a dit que c'était un cadeau pour le bébé, qu'elle l'avait tricoté elle-même. Apparemment, c'était la première fois qu'elle tricotait quelque chose et elle s'est excusée si le résultat n'était pas très convaincant.
Madame Mullen, avez-vous assisté à cette rencontre ?
Oui, j'étais dans mon bureau. Jack m'a appelée et je suis descendue.
Vous êtes restée dans l'entrée ?
Oui, tous les trois.
Vous n'avez pas invité Madame Fitzwilliam à entrer ?
Non, répond Jack d'une voix tremblante en secouant la tête. Maintenant, je regrette sincèrement de ne pas l'avoir fait. C'est juste que elle avait été malade et elle n'avait pas l'air en forme. Avec Rebecca et le bébé, je me suis dit... On s'est dit... Enfin, quoi qu'il en soit, on ne l'a pas invité à entrer, non.
Il renifle, les yeux brillants. Elle vous a donné le cadeau et ensuite ?
Nous l'avons remerciée longuement. Je lui ai dit que j'espérais que sa famille prenait soin d'elle. Mais apparemment, ce n'était pas le cas. Son mari travaillait tard et son fils était obnubilé par son premier bal. On a parlé de ça pendant un bout de temps. Il y allait avec une fille et Nicolas était très contente. Elle nous a dit qu'il nous inviterait à dîner un de ces jours, puis elle est partie.
Que s'est-il passé ensuite ?
Je suis partie au travail.
Et vous, Madame Mullen, qu'avez-vous fait ?
Je suis remontée dans mon bureau et je me suis remise au travail.
Qu'est-ce que vous faites ?
Je suis analyste en informatique pour un cabinet comptable.
Vous êtes donc douée avec la technologie ?
Pas plus que la plupart des gens de ma génération.
Et Monsieur Butter, votre beau-frère, dit qu'il est rentré de chez sa mère aux alentours de 19h. L'avez-vous vu ou entendu rentrer ?
Non.
Votre belle-sœur, Joséphine Mullen, serait rentrée vers 20h. L'avez-vous vu ou entendu rentrer ?
Non plus. J'ai travaillé jusqu'à 21h quand j'ai entendu les sirènes de police monter la colline.
Rose inspire discrètement, se préparant à orienter la discussion sur un terrain plus difficile. Elle jette un œil à son carnet, sourit et s'éclaircit la gorge.
Quand elle est rentrée hier soir vers 20h10, votre belle-sœur dit avoir remarqué que vous aviez déplacé la silhouette en carton grandeur nature de votre mari devant la fenêtre de votre bureau.
Un lourd silence s'installe. Pardon ?
En passant devant la porte de votre bureau hier soir, elle dit avoir vu que la silhouette en carton qui est normalement rangée dans un coin de votre bureau était posée devant la fenêtre.
Non, elle se trompe.
Rose inspire et sourit.
Ça ne vous dérange pas qu'on aille dans votre bureau ?
Non, allons-y. Elle monte l'escalier avec facilité malgré sa grossesse avancée.
Voilà,
dit-elle en poussant la porte de la pièce. Son bureau est collé contre un mur. Il y a un petit canapé de l'autre côté et de nombreuses étagères. Rose examine attentivement toute la pièce, analysant les éléments qu'elle s'attendait à y trouver. Sur le bureau, une photographie d'une adolescente aux longs cheveux noirs, souriant, le bras autour d'un border collie. Dans le coin se trouve la silhouette grandeur nature de Jack Mullen. Rose s'approche de la fenêtre. D'ici, elle peut voir tout le village de Melville en contrebas. Elle peut aussi voir le beau window de la maison des Fitzwilliam. Elle baisse les yeux vers l'endroit où Madame Tripp s'était cachée la veille pour observer les maisons de la rue et regarde à nouveau le bureau soigneusement rangé.
Merci beaucoup.
En arrivant en bas des escaliers, Rose s'arrête.
C'est votre manteau, Madame Mullen ?
Demande-t-elle en désignant le long vêtement de laine noire accroché sous une écharpe rouge.
Oui,
répond-elle d'une voix hésitante, presque inaudible.
Est-ce que vous pourriez l'enfiler, s'il vous plaît ?
Jack s'avance vers elle.
Pourquoi faire ?
Nous avons besoin de tester une hypothèse, c'est tout.
Une hypothèse concernant le manteau de ma femme ?
Ce n'est probablement rien, monsieur Mullen. Un témoin nous a mentionné un élément et nous devons vérifier ce manteau pour avancer dans notre enquête, si cela ne vous dérange pas.
Jack et Rebecca échangent un regard.
Il hausse les épaules et elle attrape son manteau, que Philippe l'aide à passer. Rose note dans son cerveau l'emplacement de l'unique bouton qui ferme le manteau juste au-dessus du ventre de Rebecca. Elle jette un coup d'œil discret à son coéquipier et sourit. « Parfait, merci. Nous avons encore quelques questions à vous poser. »
Il retourne dans la cuisine et se rassoit.
« Je voudrais vous poser quelques questions sur une affaire bien plus ancienne que les événements d'hier. Madame Mullen, pourrions-nous discuter de ce qui s'est passé en 1997, à l'époque où vous habitiez à Burton-on-Trent ?»
Jack Mullen se raidit légèrement.
« Pourquoi ? Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça du tout. D'abord ma sœur et maintenant ma... »
« Monsieur Mullen, je comprends parfaitement votre inquiétude, mais dans une telle enquête, nous ne pouvons rien laisser au hasard, pas même les hypothèses les plus improbables. Nous pourrions demander à votre femme de nous suivre au commissariat, mais vu son état, nous préférons mener cet entretien chez vous. J'espère que nous pourrons reprendre notre conversation sereinement maintenant. »
Elle termine sa petite tirade avec un grand sourire qu'il lui rend par politesse.
« Merci bien, » reprend-elle en se retournant vers Rebecca.
« Madame Mullen, j'imagine qu'il est difficile pour vous d'en parler, mais il est très important que vous puissiez nous raconter ce qui est arrivé à votre sœur en 1997, s'il vous plaît. »«
Comment est-ce que vous... »«
Nous savons. » »«
Et quel est le rapport avec... »«
Il n'y en a probablement pas, mais nous devons en parler. Merci. »
Rebecca se tourne vers Jack, qui pose sa main sur la sienne.
« Ma sœur s'est suicidée. » « Comment s'appelait-elle ? »
« Geneviève. »
« Viva. »
« Viva Hart. »
« Pourquoi a-t-elle commis ce geste ?»«
On ne sait pas, elle n'a pas laissé de lettres, mais elle était victime de harcèlement scolaire. »
« Je crois que vous avez retrouvé son journal intime après sa mort. »
« Oui. »
« Et son contenu a poussé vos parents à suspecter l'un des enseignants de son collège, qui fut à l'époque interrogé par la police. »
« Oui. »
Ce professeur, c'était Tom Fitzwilliam, non ?
Jack Mullen se retourne brusquement vers sa femme. Il est bouche bée et retient son souffle.
Rebecca baisse les yeux.
Je ne sais pas comment il s'appelait. C'était son prof de littérature, c'est tout ce que je sais.
Nous avons pu consulter les pages incriminant cet enseignant grâce à la police de Burton, et son nom y figure clairement. C'est Tom Fitzwilliam qui a été entendu dans cette affaire.
Elle hausse les épaules.
35 minutes après le début de son interrogatoire, il était relâché. Et 20 ans plus tard, vous êtes voisin.
Rebecca croise les bras sur son ventre, de plus en plus sur la défensive.
C'est une étrange coïncidence quand on y pense, non ?
Jack essaie d'attirer l'attention de sa femme, mais son regard demeure fixé sur la table de la cuisine, juste à côté du carnet de Rose.
Peut-être. Mais c'est le hasard.
Ça a dû être terrible pour vous. D'emménager dans la maison de vos rêves et de découvrir que votre voisin est l'homme que votre famille tient pour responsable de la mort de votre petite sœur.
« Ce n'est pas comme ça que je le voyais »,
réagit-elle en jouant avec le tissu de sa robe.
« J'étais jeune, je ne sais plus ce que je pensais. »«
Vos parents, où sont-ils ?»«
Ma mère est morte, d'un cancer en 2012. »«
Mon père, je ne sais pas où il est,
il a disparu. »« Il a sombré dans l'alcoolisme. »
Il essaie de garder ses distances.
Donc il n'y a plus que vous.
Oui.
Et Jack, maintenant, bien sûr. Et le bébé.
Rebecca jette un œil à son ventre et se force à sourire.
Oui. Le bébé. Quand devez-vous accoucher ?
Le 1er mai.
Rose sourit fermement.
S'il vous plaît, pour le bien de cet enfant, faites que je me trompe. Faites que tout cela ne soit que le délire d'une femme psychotique et de sa fille adolescente. Faites que ce ne soit pas fondé.
J'aimerais vous montrer une image.
Elle sort une enveloppe de son sac, en sort un tirage et le glisse de l'autre côté de la table vers Rebecca, qui le touche du bout du doigt.
Cette photo a été prise à l'arrière de votre maison hier soir à 20h18, à peu près au moment où Tom Fitzwilliam est rentré chez lui. On y voit quelqu'un qui s'éloigne de leur maison et s'apprête à rentrer dans votre jardin.
« Ici, » explique-t-elle en montrant du doigt la porte vitrée.
Rebecca rapproche la photo, l'étudie un instant avant de la repousser.
« Qui est-ce ? »
« Difficile à dire, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une très bonne photo. Mais si vous regardez d'un peu plus près, vous remarquerez une forme circulaire, ici, »
ajoute-t-elle en montrant le centre de la silhouette.
« Comme un gros bouton. » Nos équipes sont en train de retravailler l'image pour que nous puissions déterminer avec certitude l'identité de cette personne.
Mais peut-être avez-vous une idée.
Non, pas du tout.
Non, insiste Rose. C'est vrai que l'image est assez floue.
Elle se retourne vers l'inspecteur.
Je crois que c'est tout pour le moment, à moins que vous souhaitiez ajouter quelque chose, Philippe.
Il inspire profondément tout en effleurant sa cravate bleu marine du bout des doigts.
Rapidement, avant que nous ne vous laissions, je voudrais vous poser une dernière question, Madame Mullen.
Il chausse ses lunettes et consulte son carnet. Il prend son temps, comme prévu. Il s'en tient à la stratégie qu'ils ont mise au point dans la voiture.
Est-ce que vous connaissez une femme nommée Frances Tripp?
Je n'ai jamais entendu ce nom.
Elle vit dans le village. Je crois que vous l'avez déjà croisée une ou deux fois. C'est cette dame qui se croit victime de persécution.
Non, je ne vois pas de qui vous parlez.
Cette dame-ci.
Il glisse une photo de Madame Tripp vers elle.
Ah oui, je l'ai déjà vue. Elle est un peu
dérangée.
Oui.
Le fils de Monsieur Fitzwilliam a une photo de vous deux, discutant dans la rue.
Il l'a prise il y a quelques jours.
Oui, je me souviens.
De quoi avez-vous parlé?
Elle m'a raconté des choses complètement abracadabrantes. Que des gens l'espionnaient, ce genre de choses. Je n'arrivais pas à me sortir de cette conversation.
Bon. Reprit Philippe en enlevant ses lunettes et posant ses mains à plat sur la table.
La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que Madame Tripp a reçu un message sur un forum hier vers 18h qui l'informait que Tom Fitzwilliam organisait une réunion ce soir-là chez lui avec tous ses complices et qu'elle devrait en profiter pour aller prendre des photos sur place. Son interlocutrice prétendait vivre à Mold, mais nous avons tracé l'adresse IP et il s'agit en réalité de quelqu'un qui vit à Melville.
Rose vit les mâchoires de Rebecca se contracter.
Ça tombait très bien, il me semble que Madame Tripp passe la soirée devant la maison des Fitzwilliam hier. De cette façon, elle pouvait témoigner vous avoir vu travailler à votre bureau.
Ce qui est étonnant, c'est que votre bureau n'est pas à côté de la fenêtre, il est contre le mur.
Et votre belle-sœur certifie avoir vu cette silhouette en carton de votre mari placée devant la fenêtre quand elle est rentrée vers 20h.
D'ailleurs, cette personne, continue-t-il en montrant le cliché du petit chemin,
ça pourrait très bien être vous, si vous n'aviez pas passé la soirée à travailler, comme vous le déclarez.
Le bouton de votre manteau est assez haut à cause de votre ventre, comme sur cette photo.
Il expire avant de s'adosser contre le dossier de sa chaise.
Madame Mullen, est-ce que vous souhaitez nous faire part de certains éléments concernant la soirée d'hier? Des choses que vous ne nous auriez pas encore révélées et qui seraient susceptibles de faire avancer l'enquête.
Un silence pesant s'abat sur la cuisine. Jack regarde sa femme.
Bex, interroge-t-il d'une voix pressante.
Bex. Rebecca fixe un point sur sa droite sans ciller.
Madame Mullen.
Enfin, elle se retourne vers les policiers, le regard sombre. Déterminée.
Et pourquoi aurais-je tué Nicolas Fitzwilliam?
Leur demande-t-elle lentement, d'une voix glaçante.
Rose prend une grande inspiration.
Voilà. Le nœud de toute l'affaire. Pourquoi est-ce qu'une femme enceinte s'introduirait dans la cuisine de sa voisine un soir pour la tuer à coups de couteau? Même si elle haïssait son mari depuis 20 ans.
C'était la question qui la taraudait depuis le moment où Jenna et Frances Tripp étaient venues au commissariat ce matin avec leur hypothèse obscure. Elle avait passé 2 heures à revoir tout ce qu'elle avait sous la main, essayant de trouver la réponse à ce mystère. Et il y a 1 heure, enfin, elle avait compris.
Jenna Tripp lui avait dit que Nicolas Fitzwilliam avait aussi été élève dans l'établissement où enseignait Tom Fitzwilliam dans les années 1990. Ils avaient entamé leur relation quelques années plus tard. Rose avait lu et relu les pages du journal intime de Geneviève Hart, et particulièrement les lignes dédiées au harcèlement dont elle avait été victime. Un nom revenait sans cesse. Nikki Lee, la chef de meute, la manipulatrice. Celle qui restait dans l'ombre, laissant ses sous-fifres administrer les pires traitements à ses proies.
Nikki Lee sentait la cigarette et le déodorant d'homme. Elle se décolorait les cheveux qu'elle attachait au sommet de son crâne, révélant des pommettes affûtées comme des lames de rasoir. Elle s'épilait les sourcils en une ligne fine qui ne fléchissait jamais. Ses yeux bleus ressemblaient à des éclats de glace sale. Elle gardait ses mains dans ses poches en poignardant Geneviève dans le dos. Elle lui disait qu'elle sentait le sperme de prof. Elle crachait dans ses cheveux et étalait sa salive avec son talon. Elle avait répandu la rumeur que Geneviève avait contracté la chlamydia, que son bouton d'herpès venait de la bite d'un prof. Ses copines déchiraient ses devoirs, notamment une aquarelle de la chevelure de sa mère qui avait nécessité un mois de travail. Après les cours, elle s'asseyait sur le muret en face de la maison de Geneviève et y restait des heures, les mains dans les poches, ou bien fumant, sa présence signalée par une petite touche rougeoyante s'éteignant, se rallumant. Elle disait à Geneviève que si elle racontait ce qu'elle lui faisait, elle tuerait son chien en enfonçant une tige de fer si profondément dans son cul qu'elle ressortirait par la bouche. Geneviève décrivait comment elle avait l'impression que Nikki Lee la regardait vivre chaque minute de sa vie, où qu'elle aille, quoi qu'elle fasse. Elle était toujours là, à l'observer, l'insulter, la pincer, la frapper, à lui cracher dessus, la suivre, la détester, mentant, donnant des coups de pied, lui faisant du mal. Quelle année terriblement douloureuse. Quel enfer ça avait dû être. Rose avait appelé l'école, demandant qu'on lui scanne la photo de classe de Geneviève l'année de sa mort. Il lui avait répondu en quelques minutes. Rose avait attendu impatiemment que la pièce jointe se télécharge. Elle avait sa preuve. Irréfutable. Philippe et elle s'étaient rendus chez les Mullen 30 secondes plus tard. Maintenant, Rose observe Rebecca, la gorge nouée, en se rappelant tous les détails de cette affaire tragique. Elle soupire et cherche dans son sac une dernière photographie. « Regardez cette photo, s'il vous plaît. » Elle observe le visage de Rebecca, attendant sa réaction. « Pouvez-vous me dire de qui il s'agit ?»«
Oui, » murmure Rebecca. « C'est Nikki Lee. » »«
En effet, Nikki Lee, celle qui harcelait votre sœur, celle qui l'a poussée au suicide. Et vous connaissez son autre nom, n'est-ce pas ?» Les yeux de Rebecca s'emplissent de larmes. Un son âpre sort de sa gorge alors qu'elle essaye de les retenir. Elle hoche la tête. Rose entend Jack murmurer un « Oh mon Dieu !»«
C'est Nicolas Fitzwilliam, » confesse Rebecca.
« Non, c'est pas vrai. »
« Si, » confirme Rose d'une voix douce. « C'est elle. » « Maintenant, vous allez tout nous raconter, Rebecca. » Vous allez nous dire tout ce que vous avez fait hier soir. Rebecca Mullen acquiesce.
Oui. Je vais tout vous raconter.